BFM Business, vos placements, nos conseils, BFM Bourse avec Guillaume Sommerer.
BFM Bourse est 100% uploadé, on est en autonomie totale, là, tous ensemble jusqu'à 18h au rythme des marchés. Bienvenue à tous, il est en hausse le CAC, petite hausse prudente de 0,3% en ce moment. On va évoquer les valeurs qui se distinguent aujourd'hui, notamment dans l'univers des semi-conducteurs. Et puis dans quelques minutes, la bourse cash, on en parlera des grandes valeurs qui font la tendance aujourd'hui avec Frédéric Rosier, notre portefeuille trading aussi, pour mesurer le potentiel technique des marchés. Ce sera à 15h55, le portefeuille trading BFM Bourse auquel chacun bien sûr peut s'abonner. Mais d'abord, l'ouverture à Wall Street, 9h30 à New York. Et 15h30 ici à Paris. Bienvenue à tous, donc au cœur de USA Today. Ils sont là, nos experts, et c'est le Nvidia Day après la publication d'hier soir. Comment Nvidia ouvre-t-il? Ils vont tout nous dire. John Plassard depuis les bureaux de Mirabeau. Bonjour John, ravi de vous retrouver.
Bonjour Guillaume.
Oh, vous avez le sourire, ça a l'air de bien se passer pour Nvidia. Et Étienne Braque depuis la Tour Euronext. Bonjour Étienne, ravi aussi de vous retrouver. Alors comment
Bonjour
ça se passe?
Bonjour à tous.
C'est l'heure de vérité. Comment ça se passe pour Nvidia, Étienne?
Eh bien, ça se passe très bien, puisque l'action touche enfin, si on peut dire, les 1000 dollars. Elle est sur un record historique, plus 7% à l'instant pour Nvidia, qui permet au Nasdaq d'être à la porte des 17 000 points à 16 960 points sur un record historique, plus 0,9% pour le Nasdaq, quand le Dow Jones piétine un petit peu, comme hier, moins 0,1% à 39 628 points. Pas de record pour l'indice Dow Jones. Le S&P 500, de son côté, est au-delà des 5 300 points à 5 333 points grâce à une hausse de 0,5%. Bien sûr, c'est Nvidia qui fait toute la tendance du jour, avec également TSMC qui s'attend à une croissance d'un peu plus de 10% cette année, qui revoit à la hausse ses perspectives. Suite à cela, vous avez la valeur qui prend un peu plus d'1%. À noter également que vous avez certaines valeurs qui ont publié leurs résultats aujourd'hui. Il n'y a pas que Nvidia, vous avez Ralph Lauren qui a publié ses résultats. Bon, là, c'est un petit peu plus compliqué dans le secteur de l'habillement. Le titre étant très légère baisse aujourd'hui. Dans un contexte, vous avez l'obligataire qui a très légèrement remonté ces dernières heures avec la minute de la Fed. 4,43 pour le 10 ans américain, 4,88 pour le 2 ans américain, quand l'euro-dollar retrouve les 1,0860 et donc l'indice Nasdaq qui est sur des niveaux records à la porte des 17 000 points avec Nvidia qui dope l'ensemble des valeurs technologiques aujourd'hui.
Ce titre Nvidia donc en direct, ça fait 3 minutes que Wall Street a ouvert, il est en hausse, ce titre de 7%, 1020 dollars, vous nous le disiez, première fois qu'Nvidia franchit la barre des 1000 dollars. John, démesurer les résultats, démesurer les prévisions, démesurer l'avenir d'Nvidia.
Oui, totalement fou. Je vous donne juste un exemple, Guillaume, on va en parler d'autres évidemment. Bah, écoutez, la progression aujourd'hui permet à Nvidia de gagner 150 milliards de capitalisation boursière en plus. C'est plus que la capitalisation totale de Intel, par exemple. Donc c'est absolument fou. Si on regarde les chiffres, regardons les revenus sont en hausse de 262% par rapport au trimestre de l'année passée, pas d'il y a 10 ans, de l'année passée. Si vous regardez les bénéfices nets, ils sont en hausse, Guillaume, de 628% par rapport à la même date l'année passée. 628%, donc c'est absolument fou ce qui est en train de se passer sur Nvidia. En plus, cerise sur le gâteau, eh bien, l'entreprise a annoncé un split de 10 actions pour une, qui normalement dope aussi les valeurs lorsqu'on l'annonce, et puis une augmentation du dividende trimestriel de 150%. Et cerise sur la cerise, eh bien tenez-vous bien, vous vous souvenez, on parlait hier de la nouvelle plateforme de puces de l'entreprise qui s'appelle Blackwell, qui est la nouvelle star qui va encore plus vite en termes de puces pour l'intelligence artificielle. Eh bien, elle est désormais en pleine production, donc c'est des chiffres absolument incroyables.
Oui, et une nouvelle puce beaucoup moins énergivore aussi, cette nouvelle puce Blackwell, permettra-t-elle à Nvidia de maintenir son avance sur ses rivaux, ses concurrents? On posera la question à nos experts tout au long de l'après-midi, et donc aussi ce split, un titre Nvidia qui vaut de plus en plus cher, on a plus de 1000 dollars aujourd'hui, mais qui redeviendra accessible au grand public grâce à ce split. Et il y a une autre valeur dans la tech dont il faut aujourd'hui parler. Alors en plus, son patron sera notre invité, en tout cas, voilà, notre star du jour au cœur de BFM Bourse. On parle de qui ? On parle d'Elon Musk. Le patron de Tesla, Elon Musk, sera écouté en direct depuis VivaTech à partir de 17h35. Rendez-vous est pris. Tesla, justement, fait partie des titres à surveiller aujourd'hui, Étienne.
En effet, suite à cette publication de Nvidia, puisque Nvidia, on en parle beaucoup ces derniers mois avec l'intelligence artificielle, mais le groupe travaille notamment avec le secteur automobile. Et hier, il y a eu un commentaire intéressant, John Plassard, du patron de Nvidia, à ce sujet.
Oui, tout à fait. On sait que les deux patrons sont des amis, hein, mais cela n'empêche pas eh bien, le patron de Nvidia que dire que Tesla est très en avance dans le domaine des voitures autonomes. Et vous savez que Nvidia produit aussi des puces pour les véhicules autonomes. Donc, bien évidemment, c'est un de ses clients et qu'il a rajouté que chaque voiture, un jour, devra avoir une capacité autonome. Eh bien, ces messages extrêmement positifs pour Tesla ont été évidemment remerciés par Elon Musk, vous l'avez dit, qui parlera cet après-midi, qui a remercié le patron d'NVIDIA. Donc, ici, très bonne nouvelle pour une fois pour Tesla, puisque on avait eu l'habitude ces dernières semaines d'avoir eh bien, des mauvaises nouvelles, notamment sur les ventes en Chine.
Effectivement. Alors, on rappelle le Nasdaq, il est en hausse, le Nasdaq d'1%. C'est les trois indices américains, celui qui progresse le plus. Merci NVIDIA, qui accélère encore d'ailleurs NVIDIA. Ça fait 7 minutes que le titre a ouvert, il gagne désormais quasiment 10%, et on y reviendra en fil rouge sur NVIDIA et l'IA en bourse tout au long de l'émission et de l'après-midi. Aujourd'hui, date symbolique, chiffre symbolique, John. Aujourd'hui marque la 100e séance de l'année sur les marchés, sur le S&P 500. 100e séance de l'année. Historiquement, que nous disent les statistiques sur la suite, une fois qu'on est sur la 100e séance de l'année?
Bah écoutez, c'est une très bonne question. Et si on regarde l'histoire, depuis la création du S&P 500, lorsque le S&P 500, au centième jour de bourse, progresse de 10% ou plus, c'est le cas. Donc aujourd'hui, à moins qu'il se passe quelque chose en cette fin de séance, eh bien, tenez-vous bien, le reste de l'année est en hausse médiane de 10% avec une moyenne de 8,8%. C'est-à-dire qu'on aurait encore 8,8% à gagner pour les prochains mois. Et bien que les moyennes, ce qui est supérieur à la moyenne annuelle, et tenez-vous bien, lors des derniers 9 épisodes où on a eu cette fameuse progression de 10% en plus, on a eu 8 épisodes où on a eu des gains à deux chiffres, c'est-à-dire de 10% ou plus. Donc ça tendrait à dire que le bull market, les marchés qui montent depuis le début de l'année, eh bien ce ne serait pas fini.
Effectivement, ben voilà, écoutez, on espère, et c'est vrai que de plus en plus de stratèges aux États-Unis sont optimistes, même les plus pessimistes des stratèges sont désormais un peu plus optimistes et réalignent à la hausse leurs objectifs sur les indices américains, notamment le S&P. Quand même, le contexte macroéconomique reste une vraie question, un vrai enjeu. À quand les premières baisses de taux? Étienne, le patron Goldman Sachs s'est exprimé sur le sujet.
Le tout quelques jours après Jamie Dimon, souvenez-vous, qui déjà depuis quelques semaines maintenant alerte le marché. Là, c'est au tour de David Salomon, John Plassard, d'être très prudent par rapport au calendrier de baisse de taux et puis surtout par rapport aux anticipations du marché, par rapport à la réalité que veulent nous donner les membres de la Fed.
Exactement, et donc le patron de Goldman Sachs, qui est très écouté bien évidemment comme Jamie Dimon, ne voit toujours pas de données convaincantes permettant de penser que la Fed va réduire les taux. Donc ce serait le no landing pour cette année, et ça devient presque consensuel, hein. Je vous dis quand même que le consensus est table sur une première baisse de taux en septembre, hein, mais évidemment c'est les prochains chiffres qui vont déterminer, vous savez, la fameuse dependency, quand la Fed va baisser ses taux. Et ce qui est très intéressant, c'est que le patron de Goldman Sachs a aussi dit qu'il voyait que le consommateur américain commençait à ressentir les effets de la hausse des prix et de la Fed. Il a notamment cité McDonald's, dont on avait parlé, avec son fameux menu à 5$ qui va commencer début juin, et puis AutoZone qui avait lancé un avertissement sur notamment le consommateur américain. Donc prudence. Et ce qui est assez intéressant de noter ici, c'est que les commentaires du patron de Goldman Sachs sont sortis juste avant les minutes de la Fed, qui était évidemment, enfin pas évidemment puisque ça correspond à ce que disaient tous les membres de la Fed, eh bien étaient des minutes très faucon, très hawkish, où on ne conçoit pas, en tout cas à la Fed, des baisses de taux qui arriveraient avant l'été. Ou pendant l'été même.
Ouais, le débat reste complètement ouvert. On a aussi les inscriptions hebdomadaires au chômage qui ont été publiées, sur lesquelles on reviendra tout à l'heure. Mais le fait du jour, c'est Nvidia qui a donc ouvert en hausse de quasiment... Hey, on est à quoi ? 9,5% de hausse en ce moment sur Nvidia. On a cet autre chiffre. Alors, vous nous disiez, John, la capitalisation d'NVIDIA progresse aujourd'hui avec cette hausse de 9-10%, autant que toute la capi d'Intel. Voilà, c'est toute la capi d'Intel qui est en train de gagner NVIDIA grâce à la hausse, là, depuis 9 minutes, depuis l'ouverture de Wall Street. Incroyable. Et désormais, la capitalisation d'NVIDIA égale 17 fois celle de Goldman Sachs. Vous avez bien entendu ? NVIDIA égale 17 fois Goldman Sachs. C'est très simple. On en reparlera donc avec notamment Frédéric Rosier. Il sera avec nous dans un instant dans la bourse cash dans 2-3 minutes. D'abord, un mot quand même de la présidentielle américaine. C'est notre rendez-vous. Promesse quotidienne, John. On est à 166 jours maintenant du scrutin. Et si on se fie au marché financier, c'est Joe Biden, John, Joe Biden qui devrait gagner les élections. Pourquoi ?
Alors écoutez, vous savez, tous les calculs sont faits aux États-Unis, et les parallèles sont faits pour savoir qui va gagner les élections. Et tenez-vous bien, il y a des calculs scientifiques qui viennent d'être faits, très précis, qui disent que sur la base de corrélation historique et le gain qu'on a hier soir sur le Dow Jones, qui était de 5,3% depuis le début de l'année, eh bien, les chances de Joe Biden d'être le prochain président, donc c'est-à-dire de rester à la Maison Blanche, seraient exactement de 58,8%. Alors, ne me demandez pas pourquoi, Guillaume, mais ce qu'on peut dire de manière sûre, et ce qui est un peu plus sérieux, je dirais, c'est que, en fait, on constate que le lien entre l'économie et la politique est très, très important et que si la croissance économique devait continuer à rester forte, les bourses monter et l'inflation baisser, eh bien, Joe Biden a de fortes chances de rester dans son siège à la Maison Blanche. Donc, c'est ce qu'il faut regarder aussi.
Les performances passées ne présagent pas des performances à venir et c'est parfois valable aussi en politique. Mais c'est quand même intéressant. Effectivement, on est à 166 jours de ce scrutin prévu le 5 novembre prochain. Allez, une dernière valeur à surveiller aujourd'hui sur le marché américain, Étienne. Laquelle ? Quelle valeur ? Quel titre faut-il encore suivre ?
Alors, par rapport à Nvidia, c'est beaucoup moins spectaculaire. Plus 0,5% pour Dupont de Nemours, ça se passe à Wall Street, oui. Bien sûr. John Plassard, l'entreprise qui est spécialisée dans la chimie, qui va se scinder en trois. Décidément, beaucoup d'entreprises du secteur suivent cette tendance.
Exactement. Dupont de Nemours, c'est Teflon. Vous savez, les poils qu'on utilise tous les jours. Eh bien, trois entités séparées. Électronique, eau, industrie. C'est très important puisque les premiers commentaires qu'on a des analystes estiment que le spin-off, donc en trois entités, pourrait ajouter 10 à 15% de valeur au cours des deux prochaines années en raison notamment de la réduction de moins important de la somme des parties. Donc, ça devrait apporter une croissance supplémentaire à l'entreprise qui était désespérée d'avoir de nouvelles croissances puisqu'elle était considérée comme la vieille économie. Donc c'est une très bonne nouvelle qui n'est pas réellement saluée aujourd'hui en bourse, mais c'est une très bonne nouvelle pour Dupont de Nemours.
John, tant qu'on est avec vous, on va en profiter. Une dernière question à vous poser quand même. Wall Street, donc, qui ouvre en hausse. Merci le Nasdaq, en progression d'1%, et merci Nvidia. Mais une volatilité qui ne cesse de baisser. On est à 11,5 là, sur le VIX. On est passé sous les 12 depuis maintenant quelques heures, avec l'expérience de marché quand même qui est la vôtre, John. Comment est-ce que vous interprétez cette baisse de la volatilité ? On a un sentiment qu'elle est écrasée et qu'elle est, voilà, cette volatilité comme incapable d'exprimer les sensations, les sentiments, les états du marché, ou au contraire, effectivement, le marché est très serein.
Ben, écoutez, c'est très simple, il y a un chiffre. On est revenu au chiffre d'il y a exactement 6 ans. Ça fait depuis 6 ans qu'on n'avait pas eu une volatilité aussi basse. Et on a l'impression, pour répondre à votre question, que absolument rien ne perturbe l'investisseur aujourd'hui, que ce soit au niveau politique, géopolitique ou même économique. Et je vous rappelle quand même que hier soir, le message de la Fed était au quiche, donc on aurait pu voir une légère progression de la volatilité, mais pas du tout. Elle est effectivement assez écrasée. Donc, de plus en plus de personnes pensent que c'est le calme avant la tempête, mais effectivement, ça ne bouge pas et on devrait voir cet été, très certainement, avec les volumes qui baissent, notamment sur les marchés boursiers, eh bien, cette volatilité progressivement revenir, parce que je vous rappelle qu'on a quand même quelques rendez-vous politiques très importants.
C'est vrai, effectivement. C'est anecdotique, mais enfin quand même. Merci beaucoup, John. John Plassard en direct avec nous. C'est USA Today depuis les bureaux de Mirabeau. Alors, c'est vrai que la Fed, hier, dans les minutes, s'est montrée un peu plus dure qu'anticipé. Certains membres de la Fed même plaident pourquoi pas, si besoin, pour une hausse de taux, figurez-vous. On va y revenir tout à l'heure avec Gilles Mouek, le chef économiste du groupe AXA sera avec nous en direct de Londres. On parlera aussi des législatives au Royaume-Uni, puisqu'on a désormais une date. Et elles auront lieu beaucoup plus tôt que prévu, beaucoup plus tôt qu'on aurait pu l'imaginer, ces législatives. Elles auront lieu dès le 4 juillet prochain. Depuis Londres, Gilles Mouek nous fera part des enjeux autour des législatives, donc qui auront lieu dans à peine 6 semaines. Voilà, le compte à rebours est désormais lancé au Royaume-Uni. Ici, en zone euro, on a des indicateurs qui s'améliorent quand même. Les PMI de la zone euro accélèrent sur un plus haut d'un an d'ailleurs au mois d'avril. On en parlera d'ailleurs aussi avec Gilles. Le PMI composite est à 52,3. La composante d'inflation ralentit, c'est plutôt pas mal. Sauf pour un pays. Un pays déçoit. Ah, c'est la France. Il se trouve que la France, le PMI de la France, repasse en zone de contraction. Ça, on ne l'avait pas vu venir. On essaiera de l'interpréter et de l'analyser aussi tout à l'heure aux alentours de 16h15 dans l'Écho du Monde. Auparavant, il est 15h46. Tout de suite, c'est la Bourse Cash. Frédéric Rosier est avec nous pour Mirabeau. Bonjour Frédéric.
Bonjour Guillaume.
On est ravis de vous retrouver, Frédéric. Vous venez nous mettre le nez dans le réel, nous confronter à la réalité crue des choses. Vous êtes sûr ?
Certain.
Vous venez nous rappeler, Frédéric, que Nvidia, la star du jour en bourse, Nvidia, en 20 ans, a gagné en bourse 58 482%. Ce chiffre, il vous donne le tournis, Frédéric ?
C'est impressionnant. Vous parliez de capitalisation boursière.
Oui.
Voilà. De capitalisation boursière, il y a 20 ans, ça pesait 2 milliards en bourse. On a vu la progression, les chiffres stratosphériques annoncés hier. Voilà, c'est tout à fait logique. Nvidia, c'est un parcours qui a été assez compliqué. Hein. C'est pas un long fleuve tranquille. Hein. Il y a eu des passages très très difficiles pour cette société. Et voilà, ils ont fait finalement le virage. Alors très aidé par le gaming, puis après par le minage de crypto. Vous en parlez souvent sur votre antenne. Puis maintenant l'intelligence artificielle. Donc on a l'impression que effectivement il y a chaque année, chaque période, on a quelque chose de nouveau, une croissance nouvelle, et Nvidia profite de cet environnement extrêmement favorable.
Alors c'est le moins qu'on puisse dire, effectivement. On voit cette publication absolument incroyable d'Nvidia et ce chiffre d'affaires, allez, plus que triplé sur un an, des prévisions qui explosent les attentes du côté d'Nvidia et un titre qui, aujourd'hui, Frédéric, franchit pour la première fois la barre des 1000 dollars au point qu'il était en train de devenir, il est en train de devenir assez inaccessible au grand public. Du coup, Nvidia annonce un split à venir de son action, ce qui va rendre ce titre peut-être encore un peu plus liquide si besoin en était, en tout cas le démocratiser. Enfin, tout est rose là dans la publication d'Nvidia, où vous voyez quand même, malgré tout, des petits points de friction qui vous ennuient.
Honnêtement, c'est difficile de trouver pour l'instant des choses négatives. Alors après, on peut chipoter sur la partie gaming, sur certaines parties, mais globalement, que ce soit sur le data, sur l'automobile, vous en avez parlé au préalable, la croissance est tout bonnement phénoménale, donc c'est très difficile. Alors par contre, on peut se poser des questions, c'est le marché final finalement, et oui, c'est très très bien l'intelligence artificielle, il y a un enjeu stratégique important, mais pour l'instant pas nombreux ceux qui gagnent de l'argent sur l'intelligence artificielle. Donc la question, c'est plutôt la finalité et les clients qui ne trouvant pas forcément immédiatement une rentabilité, vont commencer à se poser des questions sur les investissements. C'est pas le cas pour l'instant. Clairement, et Nvidia ne nous dit pas quelque chose dans ce sens-là. Et par contre, dans les publications, si vous permettez juste quelque chose, oui. Finalement, Nvidia ne fait que confirmer ses guidance. Donc là aussi, on peut dire, tiens, pourquoi ne pas rehausser encore et de manière très très forte les guidance. Donc c'est toujours dans le message extrêmement prudent de Nvidia dans sa communication.
Ils ont une nouvelle ligne de puce qui va arriver à partir de la fin de l'année, une plateforme baptisée Blackwell qui doit permettre de diviser par 25 la consommation énergétique des puces conçues par Nvidia. Donc division par 25, c'est quand même dingue, hein. Division par 25 de la consommation énergétique de ces puces. Est-ce qu'Nvidia va garder du coup encore cette longueur d'avance qui lui permet pour l'instant de rester intouchable ?
Alors oui. Mais depuis longtemps, je défends la thèse qu'il y aura une segmentation du secteur des ce qu'on appelle des GPU, des cartes graphiques notamment, et que la partie haute, c'est pour Nvidia haut de gamme. Maintenant, il y a de la place pour d'autres acteurs. Je pense notamment à AMD qui avait un peu déçu sur les publications, mais il est clair que si vous avez besoin d'intelligence artificielle pour tous les jours, vous n'avez pas forcément besoin de cartes graphiques ou de semi-conducteurs à haute performance. Donc il y aura une segmentation naturelle qui va s'opérer sur le marché. C'est un peu lent à se mettre en place. Nvidia a quasiment la totalité du marché, mais ça va se mettre en place. Ne vous inquiétez pas là-dessus. Donc c'est cette segmentation qui va surveiller un peu sur le profil de croissance et la possibilité de Nvidia de continuer quand même à ce rythme relativement fort de croissance sur tous les secteurs automobiles.
On rappelle et ainsi de suite. La hausse d'Nvidia aujourd'hui là en direct sur le marché américain plus 8,5%. Nvidia est en train de gagner 170 milliards de dollars de capitalisation là depuis l'ouverture de Wall Street. C'est l'équivalent de la capitalisation d'Intel. Ouais, c'est là, mais c'est dingue. Et on a regardé, la capitalisation d'Nvidia égale 17 fois celle de Goldman Sachs. Vous vous rendez compte? C'est complètement dingue. Mais en même temps, la valorisation n'est pas super excessive. Quand on compare à ses concurrents ou ses pairs, on n'est pas sur la valeur la plus chère, là.
Non, parce que quand vous avez une croissance de chiffre d'affaires, on est quand même d'un trimestre sur l'autre de 23% de croissance, par exemple, sur les centres de données. Sur l'automobile, vous êtes d'une année sur l'autre de 11%. Donc, vous voyez, la dynamique de croissance est tellement forte que ce qu'on appelle le PER, le ratio cours bénéfice, finalement, n'augmente jamais. Malgré la hausse du titre, vous avez même tendance à baisser. Donc, oui, le titre est attractif à partir du moment où Nvidia est capable de maintenir ses taux de croissance sur longue période.
Est-ce que le fait qu'ils ne fabriquent pas les puces, mais qu'ils se contentent de les concevoir, ça les rend malgré tout d'un certain point de vue fragile? Parce que les puces qu'ils conçoivent sont en réalité essentiellement fabriquées à Taïwan. Est-ce que du coup, là, il y a un risque géopolitique, une exposition géopolitique d'Nvidia qu'on est en train de sous-estimer?
Oui, et d'ailleurs c'est un sujet parce que il y a par exemple Micron qui fournit également la partie mémoire pour Nvidia qui avait des problématiques de livraison. Donc attention, c'est ce qu'on avait connu dans le secteur automobile, l'électrification et la forte demande. Vous pouvez toujours avoir cette problématique de supply chain, hein, de la partie de en amont d'Nvidia qui pourrait éventuellement avoir des soucis. Alors bien sûr, Taïwan fait partie de ces soucis. On a vu encore cette nuit des mouvements militaires autour de Taïwan. Donc oui, ça les rend quelque part un peu fragiles sur cette partie-là.
Nvidia, en 20 ans, c'est votre chiffre, hein, celui que vous mettez sur la table aujourd'hui, en 20 ans a gagné plus de 58 482% avec la hausse du jour. Nvidia, incroyable. Qui fera mieux?
38% par an, hein, juste pour vous dire, mais c'est un petit peu mieux que le livret A.
Oui, c'est vrai. Et Frédéric, qui fera mieux?
Et que Nvidia? Ouais. Ah, c'est pour l'instant là, ça va être difficile. En tout cas, sur cette progression, ça va être très difficile de trouver mieux.
Frédéric Rosier nous accompagne en direct depuis les bureaux de Mirabeau. Merci beaucoup, Frédéric. Si Frédéric vous a convaincu, parlez-en à vos amis. Hein. Pas de date de péremption ici. Tout reste frais. Tous nos directs trouvent une deuxième vie en replay et podcast. Et donc, n'hésitez pas à dire à vos amis de réécouter l'argumentaire de Frédéric autour d'Nvidia en replay. Sur notre application BFM Business, vous allez dans BFM Bourse, puis dans la rubrique replay. 15h53. On est ensemble jusqu'à 18h.
BFM Bourse, Culture Bourse.
Cette émission, c'est la vôtre, Julie Cohen-Horton. Et ses experts vous répondent chaque jour dans Culture Bourse. Bonjour Julie.
Bonjour Guillaume, à votre service. Bonjour à tous. Parce que oui, vous êtes de plus en plus nombreux à nous écrire. Vous avez des questions pour structurer vos portefeuilles d'investissement. Il n'y a qu'une seule direction, c'est celle de BFM Bourse. Et vous pouvez nous écrire à l'adresse bfmbourse@bfmbusiness.fr ou bien au QR code qui s'affiche si vous nous regardez à la télévision.
Tiens, cette question d'actualité d'ailleurs concernant Total Energy. Total Energy tiendra demain son Assemblée Générale, Julie.
Oui, Stéphane, eh bien, il s'interroge, il suivra très certainement cette Assemblée Générale et il se demande ce que deviendra sa ligne Total Energy au sein de son PEA dans le cas où Total viendrait à quitter la Bourse de Paris direction Wall Street. Eh bien, on va tout savoir grâce à l'éclairage de Gwenaëlle Le Sarre pour Swiss Life Banque Privée. Bonjour Gwenaëlle, merci d'être avec nous.
Bonjour Julie.
Bonjour.
Alors Gwenaëlle, quel impact le fait que Total Energy ne soit plus coté à Paris, eh bien cela pourrait avoir sur le PEA de Stéphane?
Alors la réponse est quand même assez claire. Hein. Total peut être coté à New York, la cotation principale, mais tant que le siège social reste à Paris, on pourra garder les actions Total dans le PEA. Donc n'ayons pas de crainte là-dessus. Et Total a déjà des ADR, donc déjà des cotations déjà à Wall Street. Donc c'est pas un problème. Après c'est vrai que de plus en plus d'actionnaires de Total sont américains. Hein. On est à plus de presque 40% d'actionnaires américains chez Total. Donc et Pouyanné, le président de Total, passe de plus en plus de temps aux États-Unis parce que le pétrole, il y en a toujours besoin et Total est vraiment un des majors importants dans le dedans. Donc, n'ayons pas peur, gardons nos totales dans le PEA. Ce sera même plutôt peut-être positif, mais ça, on verra ça.
Effectivement. Alors, du coup, Total Energy qui pose plein de questions. Demain, elles seront sans doute posées, ces questions relayées à la direction et à Patrick Pouyanet à l'occasion de l'Assemblée Générale. Total Energy qui compte bien rester à Paris, mais peut-être faire quand même de Wall Street sa place de cotation principale. Voilà, l'idée, en tout cas, est sur la table. Je suis actionnaire de Total Energy. Qu'est-ce que je fais, Gonel?
Je pense que si on annonce demain que Total est cotation principale à New York, on en rachète. On en rachète beaucoup plus. Parce que les valeurs européennes sont moins valorisées que les valeurs américaines. Si on prend que les valeurs américaines comme ExxonMobil ou une autre major, elles vaut à peu près 13 à 12 fois l'année 2024-2025 en PER, quand Total ressort à autour de 8 fois. Donc on a déjà eu l'exemple cette année de CRH, qui est une valeur irlandaise côté États-Unis, qui a pris entre 40 et 60% cette année de hausse, parce qu'il y avait une sous-valorisation par rapport à ses pairs américains. Donc si Total est coté principalement à New York, on en rachète. Mais c'est pas pour ça que Total sortira du CAC. Total pourra toujours être dans le CAC 40. Mais franchement, on verrait ça plutôt, nous, comme une bonne nouvelle pour les investisseurs.
Oui, de même qu'LVMH est coté sur plusieurs places simultanément, par exemple à Francfort. Hein, ils sont présents à Francfort, par exemple, LVMH. Vous restez avec nous, ça vous dit, Gonaël, en fil rouge?
Oui.
Bah, super, restez avec nous. Donc voilà, pour se balader au cœur de cette séance, parce qu'on a beaucoup, beaucoup d'actualités boursières aujourd'hui. On vous demandera ce que vous pensez de la publication d'NVIDIA. Eh oui, vous n'y échapperez pas, vous non plus, Gonaël. Ce sera dans un instant. Auparavant, Culture Bourse, Julie, se poursuit. La pédagogie technique aussi, grâce à notre portefeuille trading BFM Bourse.
Surtout grâce à l'éclairage d'Alexandre Tixier, c'est lui l'analyste de ce portefeuille trading. Bonjour Alexandre.
Bonjour Julie, bonjour Guillaume.
Bonjour.
Alors on le rappelle, hein, si vous voulez vous abonner, eh bien il suffit de scanner ou de flasher le QR code qui apparaît sur vos écrans. Bon alors Alexandre, moi je veux pas pinailler, hein, mais hier on est quand même repassé un temps en dessous des 8100 points sur le CAC. Où est-ce qu'on se dirige selon vous? Est-ce qu'on peut encore quand même garder ce cap des 8200 points? Et comment vous le traduisez techniquement au sein du portefeuille?
Alors effectivement, Julie, on est passé hier un petit peu sous les 8100, mais les niveaux en place, les niveaux techniques qui bornent le CAC restent d'actualité. Sur ces niveaux, on a par le haut une résistance qui est tout simplement constituée des sommets historiques. Pour aller chercher plus haut, là, il nous faudrait vraiment de la volatilité sur le franchissement, des volumes et que tous les secteurs s'y mettent en même temps. Il faudrait vraiment cocher toutes ces cases pour aller plus haut. C'est peut-être pas pour tout de suite. Niveau support, donc par le bas, on a une zone qui, grosso modo, est comprise entre le gap du 22 février et les 7900. Donc ce sont vraiment deux zones qu'il va falloir vraiment surveiller dans les jours à venir, c'est-à-dire un range de 400 points dans lequel on peut avoir pas mal de mouvements oscillatoires.
Et puis Alexandre, il y a une valeur que vous avez recommandée à vos abonnés et qui n'en finit pas de se distinguer.
Oui, je voulais faire un petit zoom avec vous sur Klépierre. C'est vraiment, à mon sens, une excellente configuration graphique, surtout dans ces moments où le CAC devient un petit peu indécis, un petit peu nerveux sous les sommets historiques. Nous, c'est une valeur qu'on a donnée par deux fois depuis le début de l'année, notamment le 17 avril sur borne basse de Canal.
Et vous nous avez fait peur.
Oui, effectivement.
Canard,
c'est autre chose. On relève régulièrement le stop et l'objectif sur cette valeur. Et bien évidemment, on en informe les abonnés quand c'est le cas.
Merci Alexandre. Alexandre Tixier, l'analyse technique de ce portefeuille trading BFM Bourse. Vous pouvez vous y abonner en scannant, en flashant ce superbe QR code exclusif. Voilà. Non mais il est beau, il faut qu'on le montre, effectivement. Si vous nous suivez à la radio, franchement, vous n'avez pas d'excuses. À la télévision, c'est beaucoup plus beau encore. Ce QR code donc qui apparaît sur vos écrans, on dirait une œuvre d'art japonaise. Et Julie Cohen-Horton qui nous accompagne Culture Bourse chaque après-midi. Merci Julie.
Merci Guillaume.
Et à demain avec l'ensemble de vos experts pour des réponses à d'autres questions de nos auditeurs et téléspectateurs. Le CAC 40 est en légère hausse de 0,1%, mais tout le monde n'a Dieu que pour Nvidia. Le titre Nvidia gagne aujourd'hui l'équivalent de toute la capitalisation d'Intel, mesdames, messieurs. Bah oui, c'est assez simple. Quand on s'appelle Nvidia, le titre gagne en ce moment 8,5%, on en parle juste après la pause. A tout de suite.
BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.